Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info. Ah,
ah okay. Je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débattre ton permis, ton vol, voler et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille Info. C'est Camille Info.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
Et bonjour, bonjour, il est 19h04 sur les ondes de Radio Canu, soit 56 minutes avant le couvre-feu. De nouveau, le Canu Info du vendredi revient en cette période de couvre-feu, promis cette fois-ci. On n'écoutera pas couvre-feu Chatterton, même si c'était quand même vraiment très 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 drôle. Mais de quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler ce soir?
Eh bien ce soir, on a déployé nos micros dans toute la métropole. On est allé sur les différents rassemblements, on est notamment allé hier au rassemblement des travailleurs et travailleuses du sexe à Lyon.
On verra aussi que la lutte paye, et ouais, la lutte paye, notamment pour les personnes de General Electric.
Et puis on enchaînera avec un entretien que l'on a fait au sujet d'un squat à Oullins qui est menacé d'expulsion. On vous fera entendre ça.
Et ensuite, on vous parlera de l'OL Arena. Et non, l'OL Arena, ce n'est pas le groupe Ama Stadium, ce sont bien deux choses différentes.
Tout à fait. Et on aura droit à une petite analyse, un petit retour politicien sur cette structure. Et on enchaînera avec le rassemblement collectif Sans Papier 69 qui était appelé tout à l'heure à 18h à la Guillotière, place du Pont. En fait, ça devait avoir lieu au départ à la place de la Comédie en Presqu'île, et puis la préfecture a refusé. On y était là aussi avec nos micros et on vous fera entendre ce qui s'est passé là-bas, ce qui s'est dit là-bas. Et puis on terminera avec
l'agenda.
Voilà, on terminera avec l'agenda. Il est donc 19h06 maintenant et on va vous faire écouter ce qui s'est raconté hier, place des Terreaux. C'était un rassemblement des travailleuses et travailleurs du sexe.
Bonsoir tout le monde, merci d'être ici avec nous dans cette soirée de commémoration. Dans cette soirée de lutte, dans cette soirée de résistance contre les violences faites aux travailleuses et travailleurs du sexe. J'aurais dû être à Paris. Je sors de réunion avec le cabinet du ministère de l'égalité hommes-femmes, qui sont le ministère de tutelle des travailleurs et travailleuses du sexe. Et ils n'ont pas dit oui pour les 5 millions de fonds d'urgence. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas grand-chose et qu'ils retourneraient travailler. On n'est pas très satisfait. Pourquoi on a besoin d'argent? Parce que, comme beaucoup de gens depuis le début de cette crise sanitaire, il y a nos consoeurs, il y a nos adelphes qui crèvent la dalle, qui sont obligés de bosser et de s'exposer au virus, qui ont perdu leur logement, qui se sont exposés à des agresseurs, qui se sont exposés à des violences, qui sont repoussés en périphérie des villes. Et nous, on demande ce fonds d'urgence pour protéger partout en France les collègues les plus vulnérables, les plus précaires. Pour dire un mot en particulier à Lyon, parce qu'à Lyon c'est particulier. Hein. Déjà l'an dernier on avait le rassemblement le plus important de France dans la lutte contre les violences, alors qu'on était un soir de manif gilet jaune. Déjà ce soir on sait qu'on a pas mal d'alliés ici à Lyon, on a plusieurs collectifs féministes, vous savez qui vous êtes. Hein, on a pas mal de collectifs d'assaut LGBT, on a pas mal d'alliés, ce qui n'est pas le cas partout. Et on est très très chanceux, chanceuses, Parce que dans une des trois villes championnes de la répression et des violences en France, on a besoin d'alliés. On a besoin d'être entendus. On a besoin d'être soutenus dans les assemblées féministes, dans les assemblées LGBT, dans les assemblées auprès des personnes syndicalistes aussi qui veulent défendre les droits des personnes qui travaillent. Donc on a besoin de vous, les alliés, les collègues qui peuvent pas dire qu'ils sont des collègues, et puis bah toutes les autres, tous et toutes les autres. Je suis très émue en fait. Hein. On a eu des violences catastrophiques cet été, vraiment. À Lyon, on n'a peut-être pas eu de décès cette année, mais on a eu des personnes lourdement handicapées par les agressions. Et on a une impunité sans pareil autour de ces agressions. Et maintenant, je suis contente de savoir qu'avec vous, on peut les dénoncer. Et on peut pointer aussi la responsabilité des décideurs de la nouvelle mairie qui doit faire changer les choses, faire changer les relations avec les autorités, la police municipale, qui sont extrêmement compliquées pour euphémiser au maximum. On a besoin de voir que les choses évoluent pour avoir un brin d'espoir d'être au moins pas la pire ville de France, quoi. Merci.
Merci. Merci de ta magnifique parole. Et c'est vrai, je me souviens, moi aussi, j'étais là l'année dernière pour crier honte à la mairie de Lyon et à l'attitude qu'elle avait vis-à-vis des travailleurs et des travailleuses du sexe. Les élections sont passées. Il nous reste maintenant à attendre des changements concrets de la part de la mairie. Histoire de nous remettre un petit peu, toutes et tous, les choses en mémoire. Souvenons-nous, c'était à Lyon, le 2 juin 1975. C'était le début de notre combat. 300 collègues occupaient l'église Saint-Nizier pour protester contre les violences policières et les arrestations pour amende. Elles demandaient la reconnaissance de leur activité comme un travail. Elles n'obtiennent, hélas, pas gain de cause, mais se sont fédérés ce jour-là et ont formé depuis des associations partout dans le monde pour dénoncer les violences faites aux travailleurs et aux travailleuses du sexe. Alors qui sommes-nous ? Nous sommes des professionnels, des travailleuses du sexe, et refusons l'emploi du mot « prostituée » qui a une connotation négative, ainsi que l'expression abolitionniste « personne prostituée ». C'est en 1980 que l'activiste Carol Lay a demandé que soit employé le mot « Oh, mais ta gueule, toi !» que soit demandé le mot « sex worker » parce que « sex work is work ». Notre symbole, depuis, le parapluie rouge. Il a été utilisé pour la première fois en 2001 pendant la Biennale des Arts et à l'occasion de la première marche Red Umbrella, vous avez vu mon accent anglais ? La marche des parapluies rouges. Bref, dans le cadre de la 49e Biennale de Venise, les travailleuses et les travailleurs du sexe manifestent ainsi dans la rue pour protester contre les conditions de travail inhumaines qui leur sont imposées. Et en 2005, le Comité international des travailleurs du sexe en Europe a adopté le parapluie rouge comme symbole de la résistance contre toutes les discriminations qui leur sont faites. La Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux travailleurs et aux travailleuses du sexe est soutenue par l'Organisation des Nations Unies. La date du 17 décembre remonte, mes petits choux, à 2003, lorsque Annie Sprinkle organise une veille pour la mémoire des victimes de Gary Ridgway, le tueur de la Green River. Depuis donc, le 17 décembre est devenu une journée internationale de protestation contre les violences faites aux travailleuses et aux travailleurs du sexe et en mémoire aussi de toutes les victimes.
Cette simple épitaphe, ici repose Nina, une vraie putain dans l'âme, antipatriarcale et anticarcérale, tuée par les bourgeois et leur justice de mal. Pas de grâce, pas de pitié pour tous les agresseurs et pour les harceleurs. Détruisons les oppressions, vive l'émancipation et nos révolutions. Détruisons les oppressions, vive l'émancipation et nos révolutions.
Effectivement, merci beaucoup. L'année dernière, déjà, on avait été très touchés de voir autant de personnes. Et Cybèle parlait de nos alliés tout à l'heure. Moi, je voudrais aussi citer un allié historique qui n'est pas dans l'interasso, qui est Collage Féministe Lyon. Et merci à Yael, parce que sans qu'on ait jamais eu rien à leur dire, elles ont toujours été là au plus juste, ciblé dans le mille nos revendications et alors je voudrais également citer un allié national, local de très longue date qui nous défend devant les institutions. C'est la seule parole crédible, enfin aux yeux des institutions, qui est avec nous, qui nous défend, ces médecins du monde. Et donc je passerai la parole à Laure des médecins du monde.
Bon, ben, j'ai préparé un petit truc. Donc je m'appelle Laure, je suis coordinatrice de médecins du monde à Lyon. On n'a pas d'action de terrain ici. Avec et auprès des travailleurs et travailleuses du sexe, mais je me fais le relais du soutien de Médecins du Monde France au rassemblement de ce soir. Donc en France, nos équipes travaillent, donc comme je viens de le dire, avec et auprès des travailleurs et travailleuses du sexe pour défendre leurs droits à la santé. Et depuis toutes les années où on travaille ensemble, on fait le même constat qu'en France, les politiques publiques ne permettent pas un accès aux soins et aux droits de toutes et tous et ont des effets délétères sur la santé des travailleurs et des travailleuses du sexe. La criminalisation du travail du sexe augmente la stigmatisation des personnes et leur exposition à des risques de violence, comme on en fait le constat chaque année. C'est pourquoi Médecins du Monde France demande, aux côtés de ses alliés et des travailleurs et des travailleuses du sexe, l'abrogation de la loi de 2016 dite de pénalisation des clients, pour lutter efficacement contre toutes les formes d'exploitation, de violence faites aux travailleurs et travailleuses du sexe. Pour un accès inconditionnel à la violence de toutes et tous, nous demandons la mise en place de politiques publiques respectueuses du choix et des parcours des personnes qui garantissent la protection juridique et un accès effectif à la justice de toutes et tous, quel que soit le statut des personnes, et des lois qui garantissent aux étrangers un accès effectif aux droits et au système de soins. Je vous remercie. Pas de santé sans droit.
Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, qu'on en dirait 20 fois autant. Et on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens. Et on ferait changer les choses, allez on ose, il est grand temps. Allez on ose, il est grand temps. Et on fera changer les choses, et je suppose aussi les gens. Allez, on ose, il est grand temps.
Et sans transition aucune, on reste dans le local et à Villeurbanne, puisque là-bas, depuis quelques semaines, les salariés du groupe General Electric étaient menacés par un plan social assez énorme, et aujourd'hui la direction de General Electric, après 22 jours de grève et 3 jours de grève de la faim pour une bonne partie des salariés, la direction donc cède annonce qu'elle va sauver 80 postes, et pour les autres il y aura a priori une base convenable sur les mesures sociales qui a été acquise. En tout cas, c'est ce dont se félicite la CGT. locale, la CGT de Villeurbanne, implantée à General Electric. Il y avait donc cette semaine plus de 130 personnes qui se sont mises en grève et qui donc par la lutte ont réussi à sauver ces 80 postes. Une caisse de grève Litchi a été ouverte depuis le début, ça coûte pas mal de thunes aux salariés, hein, cette grève évidemment. Donc n'hésitez pas à leur filer un peu d'argent pour ceci. Pour trouver cette caisse de grève Litchi, ben, il suffit simplement de taper dans votre moteur de recherche préféré « caisse de grève pour les salariés de General Electric ». Peut-être faut ajouter Villeurbanne. Donc « caisse de grève pour les salariés de General Electric ». Seule la lutte paie. On est là tout de suite avec Klaus Tinto.
Juste pour dire on est là, on se connaît même pas. Juste pour dire on y pense à toi qui sors pas. Juste pour dynamiter ce silence là, la cour, les murs, le sol et puis le toit. Nous dehors, toi dedans, personne mérite ça. Les draps tressés de mots, personne se taira. Le cœur fait des yo-yo, dehors on est là. Le feu, les pierres, la tête et puis les bras. Il y en a dedans, personne ne vivra. Dehors, ce qui les tient, c'est la peur d'être toi. On se dit, c'est toujours l'autre, on enferme là. Les voleurs, les tueurs, les méchants, les rats. On est la voix qui dit, personne mérite ça. On le sait bien qu'ici, ça manque de bras. Se serrer fort dedans, pleurer juste pour soi. On est la voix qui dit, en cœur, on est là. La voix qui souffle fort pour faire du vent. On est la voix dehors, on est la voix dedans. Dans la fenêtre et dans le corps, et t'envoler loin du ciment. C'est du ciment, une solitude immense. Si t'es solide dedans, dehors c'est la violence. Dans la fenêtre et dans le corps, c'est le vent qui t'envole. C'est la vie qui se tord, ça fait fou, ça fait folle. La peau c'est du béton, on est là même si la haut veut pas. Même si le pied chaque fois son cime et tout c'est sûr ça tombera. La peau c'est du croco, les écailles et les crocs. C'est la peau croquée, l'oiseau qui fait cocorico. La peau c'est du papier glacé, froissé, mâché, consumé. La peau c'est du carton, pâte, carton, boîte, carton, maison, squat. La peau c'est du verre, du fer, du plastique, du polyester. La peau c'est dehors, dedans, on est là, on t'attend. On est là.
On oublie au fond que t'es là. Des mois qu'on te dit t'es seul au monde, regarde-toi. Des années qu'on se lève, on nous dit tais-toi. Des siècles qu'on se ferme, les cerveaux, les bras. C'est des vies, on sait pas au fond ce qu'on fait là. Des vies, on te dit t'es folle de crier calme-toi. C'est des vies, tu t'énerves, on t'écoute pas. T'oublies que tu peux mordre la main qui te bat. Se laisser faire, c'est fort, se dire que ça nous va. Se faire marcher dessus, devenir tout plat. Ça fait fou, ça fait folle, au fond ça fait froid. Feu aux prisons, aux banques, aux flics et aux rois. On est là, on est là, on bouge pas les pieds du plat. On est là, on est là, on sent plus le chaud, le froid. C'est tout plat, c'est tout droit, y'a plus que toi. Les cris tout autour et nos pas tout en bas. C'est le silence qui rend sourd, c'est la vie qui fait ça.
Et merci bien à Klaus Tinto, le Stéphanois, de nous faire danser sur les ondes rebelles de Radio Canu. Il est 19h24 et on va vous parler d'Oulin maintenant.
Et oui, parce que la prochaine fois que vous irez à Saint-Étienne écouter un concert de Klaus Tinto, vous passerez par la belle ville d'Oulin où un squat va peut-être être expulsé le 29 janvier. On était ce matin au procès, on vous racontera ce qui s'est passé après. Toi, du coup, t'habites à Oulin dans un squat, c'est ça?
Ouais, j'habite à Oulin dans un squat à Oulin.
Ouais. Et il est où ce squat?
Gare d'Oulin, terminus de métro, 65 rue Pierre Semon.
Ok.
Ouais, c'est là-bas que j'ai vu.
Et du coup, c'est quoi? C'est un immeuble? C'est une maison? C'est quoi?
Ouais, c'est un immeuble de d'étage. Ouais. Tous les habitants s'entendent, ils se connaissent bien, aucun problème là-bas.
Et vous êtes là-bas depuis combien de temps?
Depuis à peu près 5 mois, 6 mois maximum.
Okay. Et c'est la première fois que tu as un logement en France ou pas?
Oui, avant j'ai dormi dans des escouades différents et des appartements différents aussi, parce que j'étais hébergé. À ce moment-là, j'ai eu un appart là-bas à Oulin, dans un escouade, c'est cool. Quoi.
Et du coup, comment vous organisez? Vous connaissez avec toutes les autres personnes qui habitent ensemble avec vous?
Oui, on se connaît là-bas, mais en ce moment-là, ça va, on se connaît bien. Juste se connaître, c'est bien.
Vous faites des réunions, par exemple, ensemble?
Oui, on fait des réunions là-bas, on fait beaucoup de trucs là-bas. On fait des réunions de famille, on a des cours de français à faire aussi. On a fait des plannings de toutes les choses qu'on fait là-bas, ensemble, tout ça. Quoi.
Et là, du coup, on est devant le tribunal de grande instance. Pourquoi?
On est devant le tribunal de grande instance pour faire. On a un procès ici. On vient savoir comment ça va se passer pour le procès. Si on va nous laisser là-bas ou bien on va nous expulser. Tout ça quoi.
Et parce que est-ce que tu sais qui c'est le propriétaire du bâtiment?
Le propriétaire du bâtiment, c'est la métropole de Lyon.
C'est la métropole de Lyon qui demande une expulsion immédiate.
Ils nous demandent une expulsion immédiate. Ouais.
Et donc, tu sais, expulsion immédiate, le délai, tu sais que.
Non, on n'a pas encore reçu le délai à ce moment-là. On attend les gens qui sont rentrés dedans. Si le ressort, bah, on va savoir toutes les infos en ce moment-là. Okay.
Parce que les gens là sont en train d'assister au procès et du coup, il y aura la réponse d'ici genre 2-3 semaines. Quoi.
Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Parce qu'on ne peut pas avoir la réponse immédiate.
Et si jamais le lieu est expulsé, qu'est-ce que tu fais?
Ben là, on ne sait pas en ce moment-là ce qu'on va faire, parce que on ne sait pas encore.
Il y a combien de personnes qui habitent à peu près?
À peu près vingtaine dedans. Ouais.
Et s'il y a des gens qui t'écoutent, qui veulent venir vous aider, vous soutenir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Il faut venir là-bas, il y a beaucoup de choses à aider là-bas. Par exemple, si ils expliquent immédiatement comme ça là-bas, il y a beaucoup de gens qui vont être dehors. Bah, s'il y a des gens qui peuvent venir pour les aider aussi, pour les aider, soutenir, ça va être bien. Bah, je vais seulement passer des messages s'ils peuvent aider des gens, bah, de les soutenir. C'est ça aussi. Bon.
Et un coucou?
Pardon?
Tu veux passer coucou à quelqu'un?
Bah, à tout le monde, à tous les gens qui aident les escalateurs et les gens qui aident les immigrés et tout ça. Quoi.
Ce procès arrive dans un contexte difficile, de crise sanitaire, de l'hiver qui s'annonce, des mesures de confinement qui pénalisent avant tout les plus précaires. Malgré les promesses de conventionnement de la métropole qui se vantent d'une nouvelle politique du logement, peu d'actes réels sont observés pour l'instant sur la question des squats. Et alors que les conventionnements sont envisagés dans certains lieux, sans pour autant aucune certitude, d'autres, appartenant à la métropole ou à ses principaux bailleurs, sont sous le coup de demandes d'expulsion, comme le squat de Houlin ce matin, où il y a une demande d'expulsion immédiate en plein hiver. Sous le coup de procédures juridiques, d'interpellations médiatiques douteuses ou d'intimidation de la part des huissiers aussi dans certains squats. Donc dans ces conditions, les squats ont plus que jamais besoin de soutien, donc un soutien matériel, juridique, économique, mais aussi de la présence pour accompagner des démarches juridiques, apprendre la langue, sortir de l'isolement. N'hésitez pas aussi à alimenter les différentes cagnottes. Donc il y a une cagnotte pour le squat de Houlin pour un soutien financier. Qui a tourné un peu, alors je me souviens plus. Voilà, donc il y a une cagnotte. S'il y a des gens qui veulent accéder à la cagnotte de Houlin, vous pouvez voir avec les dames là. Il y a aussi la cagnotte de l'Intersquat qui est en ligne, donc qui après est redistribuée aux différents squats. Donc vous pouvez la voir sur la page Facebook collectif Intersquat Exilé Lyon et environ. Il y a aussi une nouvelle mailing list qui est sortie, c'est sostravaux69@riseup.net. C'est une liste qu'on a créée pour si les personnes dans les squats ont des besoins de travaux, de matériel, d'intervention en urgence pour de la plomberie, de l'électricité, faut pas hésiter à envoyer un mail sur cette boîte où il y aura des personnes qui pourront intervenir en urgence sur les squats ou prévoir des journées de travaux par exemple. Et si vous également vous avez envie de donner des coups de main sur les travaux dans différents squats, vous pouvez contacter cette liste mail. sostravaux69@list.riseup.net. Voilà, et puis de manière générale, n'hésitez pas à rapprocher des squats de vos quartiers pour donner des coups de main.
Yeah.
Canu Info du vendredi soir est très mélomane. Ce soir, on vient d'écouter Ayoka, bien entendu, Quartier Sauvage. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce rassemblement devant le tribunal de grande instance de Lyon? Il y avait à peu près, allez, si je mens, je dirais 20 personnes, si je mens pas, je dirais 15. Mais n'empêche que ce qu'on a pu savoir, c'est qu'il y a eu, quoi, il y avait au moins une dizaine de personnes aussi dans la salle du procès. Le rendu sera le 29 janvier. Pour vous donner une idée, l'avocate a demandé un délai de 3 ans. Le représentant de la métropole, qui sont donc bien les propriétaires du bâtiment, ont demandé une expulsion immédiate.
Et il est également, il va être plutôt également question de métropole dans un instant et son nouveau président Bernard donc. Et puis aussi ça nous fait penser à ces vieilles crapuleries et arrangements entre le patron de l'Olympique lyonnais, Aulas, et l'ancien patron de la métropole, Colomb. Au sujet de la construction du grand stade. Alors là, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, c'est pas un stade, mais c'est toujours lié à l'OL. Et vu que j'en parle pas très bien, ben, je vais laisser un camarade qui connaît mieux le dossier en parler.
Et tout de suite, on va vous parler de Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, et de Gérard Collomb, l'ancien président de la métropole de Lyon, qui se retrouve main dans la main au service du sport business. L'OL Arena est un projet de construction d'ici 2023 d'une salle de 15 000 places en face du grand stade de l'OL à Décines-Charpieux. L'OL Arena s'inscrit en fait dans un projet mégalo de Jean-Michel Aulas, baptisé OL Vallée. Ce projet comprendra aussi un complexe de loisirs, incluant des salles de sport, des restaurants, un bowling et une vague artificielle pour le surf. Pourquoi pas ? L'utilité sociale d'une telle réalisation est évidemment très discutable. Mais l'intérêt économique est évident pour Aulas et puis pour son ami Tony Parker, donc le célèbre président de l'ASVEL. Le principal argument pour la construction de l'OL Arena est en effet le fait que cette salle pourra accueillir les matchs internationaux du club de basket Villeurbanais, qui fait figure de nouvel étendard du sport business dans la métropole de Lyon. À part ça, la salle devrait régulièrement accueillir des concerts et des spectacles. Pour construire cette aréna, une modification du plan d'urbanisme, qu'on appelle aussi le PLU, est nécessaire et c'est sur cette modification que devaient se prononcer les conseillers métropolitains mardi 15 décembre. En perspective de ce vote, la ligne de Bruno Bernard était extrêmement claire, puisqu'il convenait en effet pour sa majorité de valider le projet du tout puissant patron de l'OL. Comme le précise le site Mediacité, le président de la métropole se voulait tout juste rassurant sur le fait qu'il avait, je cite, « obtenu des garanties de la part de l'OL sur l'impact environnemental et le modèle économique de cette future aréna ». Il semble qu'en réalité, ces garanties soient plutôt ridicules. Surtout, ce genre de garantie ressemble à un air bien connu pour faire passer des projets inutiles pour des parangons de vertu. Et c'est aussi ce qu'ont remarqué quelques élus de la majorité métropolitaine. Non seulement le modèle de cette aréna est nocif pour l'environnement, bénéfique uniquement pour des acteurs privés, donc Aulas, Parker et compagnie, est fondé sur un modèle économique désastreux, qui est celui du grand équipement en périphérie. Un élu de la majorité l'a remarqué, puisqu'il a diffusé un communiqué qui qualifiait l'OL Arena de projet anti-écologique, et il précisait aussi que celui-ci n'est pas au rendez-vous de nos engagements environnementaux et engagements de campagne. Il appelait alors au retrait de la délibération sur le PLU. Un autre élu vert assurait lui que, je cite, « tout le paragraphe environnement du projet est une blague ». Il dénonçait le fait que la concertation était là pour faire joli, on serait tenté de dire comme d'habitude, et que les soi-disant engagements d'Aulas n'en sont pas réellement, on serait tenté de dire à nouveau comme d'habitude. Ces élus, vert critique, ils anticipent aussi une question déjà soulevée par le grand stade lui-même. Une fois cette infrastructure privée installée, Aulas et Parker comptent bien sur la collectivité territoriale pour leur amener un flux de clients et de spectateurs en investissant dans les transports en commun. Outre ces dépenses inutiles pour la collectivité, les usagers de l'OL Vallée seront aussi nombreux à venir en voiture, ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences désastreuses en matière environnementale. Heureusement que le président de la métropole est censé être écologiste. Pour défendre la position de Bruno Bernard, Béatrice Vessilier, qui est vice-présidente de la métropole à l'urbanisme, a eu recours à un grand classique néolibéral, hein, puisqu'elle a plus ou moins dit « There is no alternative » ou « TINA » pour reprendre l'acronyme qu'on associe souvent à Margaret Thatcher. En arguant de l'importance des modifications proposées par Aulas, elle a ainsi déclaré, je cite, « Cette salle Arena n'est pas un projet écologique, sans blague ». Nous n'avons pas cependant la volonté de bloquer les projets privés, mais plutôt d'œuvrer à leur réorientation si nécessaire. On ne saurait pas facilement faire beaucoup plus tiède. En tout cas, avec ce projet, Bruno Bernard a réussi à diviser dans sa majorité. Les élus communistes insoumis et les élus du groupe Lyon en commun, c'est celui de Nathalie Perrin-Gilbert, se sont soit abstenus, soit ont voté contre le projet. Et même au sein du groupe écologiste, Bernard n'a pas fait le plein de voix, puisque sur 58 élus, 27 n'ont pas voté comme leur chef de file, 20 se sont abstenus, 4 ont voté contre et 3 n'ont carrément pas pris part au vote. Résultat des courses, pour faire passer cette révision du PLU, eh bien Bruno Bernard a eu besoin des voix de la droite, mais aussi des groupes de Collomb et de Kimmelfeld, pour faire valider le projet d'OL Arena. Bruno Bernard marchait déjà dans les pas de Gérard Collomb en matière sécuritaire et économique, et puis il poursuit désormais son œuvre sur le plan de l'aménagement du territoire et du soutien au baron lyonnais du sport-spectacle. Pire encore, il a besoin des voix de Collomb et de ses sbires pour obtenir ce qu'il souhaite. Collomb n'a pas manqué d'ailleurs de lui faire remarquer en se foutant un petit peu de sa gueule sur ce soutien bienvenu. Bernard ne serait-il donc finalement qu'une copie poussiéreuse de son prédécesseur? On répondra pas tout de suite, mais en tout cas l'esprit du colombisme flotte encore largement sur la métropole que Collomb avait conçue à sa main.
Tout à fait. Et les infos de Radio Canus sont incroyables. C'est pour ça, auditrice, auditeur, que tu les écoutes. Tu as bien raison. Il y avait tout à l'heure un rassemblement à la Guillotière appelé par des collectifs de sans-papiers, sans-papières. On y était, on a capté du son. On n'a pas eu le temps de tout monter. Mais on va faire ça en direct, pas vrai?
Et oui, complètement, parce qu'il y avait du coup, théoriquement, à la base, vous aurez pu voir qu'il y avait un rassemblement qui a été appelé Place de la Comédie cette semaine, soit à l'Hôtel de Ville, soit sur la Presqu'île, justement par ces collectifs de sans-papiers et de sans-papiers. Qu'est-ce qui s'est passé? La préfecture du Rhône a refusé que ce rassemblement se situe sur la Presqu'île. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, soi-disant. Ce que ça veut dire surtout, c'est que il était important que les gens puissent continuer à consommer, faire leurs courses de Noël, comme l'avait demandé du coup la Chambre de commerce et de l'industrie cette semaine, qui a demandé à la préfecture d'empêcher tout rassemblement vendredi ou samedi sur la Presqu'île. Du coup, à ce rassemblement, il y avait environ 200 personnes quand même, avec des petits flambeaux, des petits chants, pas mal de banderoles. Et du coup, on va pouvoir écouter différentes personnes qui ont pris la parole dans ce cadre-là. On va d'abord écouter une personne de Agir Migrants.
Des réfugiés et migrants, des rassemblements se tiennent dans toutes les villes, en France et aussi à l'étranger. En France, ici, avec l'acte 4 des sans-papiers, nous affirmons que le pouvoir fait partie du problème des crises de ce pays et que nous, nous sommes la solution. Depuis sa création en 2015, notre collectif d'organisation se mobilise en solidarité avec tous les exilés sur des revendications claires, comme aujourd'hui avec l'acte des sans-papiers. Nous exigeons notamment la liberté de circulation pour toutes et tous. Nous sommes contre la fermeture des frontières, car les frontières tuent. Elles tuent en Méditerranée et aux frontières de l'Europe, suite au pacte des migrations de l'Union européenne et aux agissements de Frontex, dont nous demandons la suppression. Nous exigeons la liberté d'installation. Nous sommes contre l'enfermement des exilés et nous demandons la fermeture de tous les centres de rétention. Nous sommes pour le droit au travail, pour tous les hommes et les femmes qui vivent ici, quelle que soit leur origine. Le droit au travail, revendiqué depuis 1848, et ici à Lyon, depuis 1831, avec les Canus, c'est le droit pour tous, quelle que soit son origine, d'avoir un emploi et un salaire qui lui permettent de vivre décemment. C'est d'autant plus important de l'exiger tous ensemble, au moment où le gouvernement accroît la concurrence entre les travailleurs, s'attaque aux services publics, supprime des postes et fait largement appel aux bénévolats, aux associations caritatives, au détriment des droits sociaux. Le droit au travail implique la régularisation de tous les sans-papiers, un titre de séjour pérenne avec autorisation du travail. Nous exigeons le droit au logement décent pour tous. Cela implique la réquisition des locaux vides et aussi la création massive de logements sociaux, le blocage des loyers, des mesures contre la spéculation qui se poursuit pour permettre à tous d'accéder à un logement décent. Contre la politique du gouvernement, ce que nous attendons des collectivités territoriales, c'est qu'elles agissent clairement en soutien aux revendications que nous défendons depuis plusieurs années. Enfin, notre collectif s'est prononcé clairement en défense de la jeunesse contre les attaques des jeunes étrangers sans famille. Si aujourd'hui on se félicite que ces jeunes mineurs isolés et jeunes majeurs qui sont ici sont mis à l'abri, la traque de l'institution se poursuit avec la mise en cause incessante de leur identité, les convocations de la police aux frontières, les tests d'âge osseux. Cette traque conduit à des OQTF et même à l'envoi de jeunes en prison. Ces entraves aux droits des mineurs vont se rendre responsables des collectivités. Elles doivent cesser, d'autant que les mesures testées sur eux, le fichage, le soupçon permanent, la répression se propagent aujourd'hui à toute la jeunesse. Ainsi, avec la mise en place d'un code pénal des mineurs, le gouvernement veut contrôler, conforter la tendance à toujours plus de répression et toujours moins d'éducation.
Et oui, du coup, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le collectif, du coup, ce collectif de sans-papiers, sans-papières, a été reçu à la mairie cet après-midi, parce que ben peut-être que du coup, Bruno Bernard et ses potes sont pas hyper cool pour l'OL Arena. Par contre, ils essaient de faire croire qu'ils veulent soutenir les sans-papiers et les sans-papières. Pour l'instant, on est en attente de mesures concrètes et, par exemple, de pas expulser les bâtiments dont la métropole est propriétaire et qui du coup sont remplis de personnes justement sans-papiers, sans papier. On va écouter tout de suite une personne du coup qui fait partie du collectif Sans Papier, Sans Papier 69.
Ben, je fais partie du collectif 69 du Lyon. Je vous informe qu'on a été reçu cet après-midi par la mairie principale parce qu'on avait des revendications à proposer. Je cite quelques-unes. On avait demandé la facilité à l'accès de la... plutôt la... faciliter l'accès à l'emploi, d'avoir une carte de citoyenneté municipale, l'accès à l'université et bénéficier de formation et d'autres. Bah, la mairie, comme vous savez, ne se tient toujours et confirme toujours son soutien et confirme qu'il va étudier notre revendication. Il va faire son mieux pour qu'on puisse les avoir. De notre côté, on garde toujours l'espoir pour atteindre nos objectifs et réaliser nos revendications.
Le deuxième acte, le 20 juin, et le troisième acte et le plus important, c'est la marche nationale depuis 19 septembre jusqu'à 17 octobre. Et on a fait la grande manif nationale à Paris le 17 octobre. Une autre revendication, c'est la régularisation de tous les sans-papiers, sans exception, le logement pour tous et toutes, et la fermeture des centres de rétention administrative.
D'accord. Eh ben, merci pour ce son capté pendant ce rassemblement. C'était important. Il avait lieu un peu partout en France, dans toutes les grandes villes françaises. Et comme tu le disais, il y avait un peu de monde ce soir à la Guillotière. Et on enchaîne et on va traverser une frontière. Tu connais la Suisse ?
Ouais, je connais pas mal la Suisse. Ouais.
Et est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y ait des ânes en Suisse ?
Ah, pour moi, il y avait du chocolat en Suisse, mais je dois me tromper.
Ben, écoute, pour moi aussi, il y avait du chocolat et puis des.
Je sais après, pas quand même, Genève, c'était la capitale des squats des années 90-2000, je crois quand même. Enfin, ouais. Moi, j'ai pas connu, ouais. Mais on me raconte.
Ouais. Je crois qu'à la fin des années 2000, il y en a beaucoup qui ont été évacués. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Hein, c'est plus trop la capitale des squats, mais c'est vrai qu'il y avait cette tradition politique. En tout cas, en Suisse, apparemment. Il y a des ânes en construction et on a tendu le micro à une personne qui nous en parle. C'est maintenant.
Bon, et ben salut. Du coup, salut. J'ai entendu parler d'une nouvelle ZAD en Suisse. Alors je me demandais si tu pouvais nous en parler un peu, genre depuis quand c'est occupé, c'est quoi le projet, qu'est-ce que tout ça, tout ça.
Oui, bah oui, alors du coup, oui, c'est la première ZAD en Suisse. Ça s'appelle la ZAD de la Colline. Elle est occupée depuis mi-octobre environ. C'est sur la commune, à moitié sur la commune des Clépans et de la Sarra. C'est à quelques kilomètres de Lausanne. Et donc, en fait, c'est occupé par un assez gros groupe de personnes pour ce qui s'oppose en fait à la destruction de cette colline. C'est une colline qui est sur une zone qui s'appelle le Mormont, qui est assez connue pour sa biodiversité. Et elle est en fait détruite depuis 1953 par l'entreprise, la multinationale Lafarge-Holcim, qui exploite en fait une carrière là-bas pour extraire du calcaire, parce qu'en fait... oui, voilà.
Ah oui.
Du calcaire.
Et du coup, c'est quoi Lafarge-Holcim?
Bah voilà, du coup, en fait, c'est une multinationale qui est en fait qui a été classée comme une des entreprises les plus polluantes du monde. Elle emploie pas loin de 80 000 personnes, mais son siège social, il est en Suisse. Et en fait, voilà, il fabrique du ciment. Et à l'heure actuelle, le site des Clépans, là où il y a la ZAD, c'est le sixième lieu le plus polluant en Suisse. Et en fait, cette entreprise, au-delà des considérations écologiques et de l'aspect polluant, en fait, ils sont très régulièrement accusés d'enfreindre les droits humains, les droits sociaux à travers le monde. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, là, on se rend compte que même s'il y a des lieux qui ferment en Suisse, ce sera que pour ouvrir encore mieux ailleurs, dans des pays où les lois, elles sont plus souples. Donc typiquement, on se rend compte qu'ils vont essayer d'ouvrir des carrières, par exemple en Égypte ou au Maroc, pour échapper en fait à des lois plus dures par rapport à l'environnement.
Ok. Et du coup, tu m'as déjà dit, mais ça fait depuis combien de temps que c'est occupé ?
Depuis mi-octobre.
Depuis mi-octobre. Et du coup, depuis mi-octobre, Lafarge, enfin, du coup, ils sont plus sur les lieux, ou comment ça se passe sur place ?
Alors, ils sont encore là et continuent d'exploiter la carrière. D'ailleurs, en fait, c'est assez étrange parce que du coup, l'occupation, le lieu, en fait, il est un peu rythmé par l'exploitation de la carrière qui se fait avec des détonations, des explosions. Et d'ailleurs, bah du coup, en fait, à chaque fois que va y avoir une détonation, il y a des sirènes. Et puis, des personnes employées par Lafarge-Holcim passent dans la colline et puis disent à tout le monde de se mettre par sécurité à l'abri. Donc, c'est une ambiance vraiment particulière.
Ok, ouais. Ah, ça doit être marrant.
Ouais.
Ok. Parce que du coup, toi, tu y as été. Et du coup, tu peux nous dire... Comment c'était, comment t'as trouvé, comment ils s'organisent, si tu sais, etc.
Ouais, alors du coup, j'y suis allée, mais vraiment pas longtemps. Du coup, je suis sûrement pas la personne la mieux placée pour dire comment ça se passe. Donc, je vais parler juste de mon expérience, c'est-à-dire quelques heures un après-midi. Du coup, c'est super chouette, c'est grand. Enfin, c'est pas aussi grand que certaines ZAD, j'imagine, mais... En peu de temps, ils ont construit énormément de choses. Ils et elles ont construit énormément de choses. Il y a des cabanes dans les arbres, des plateformes. Il y a une immense tour de un peu surveillance, comme ça, tour de guet qui a été montée. C'est vraiment beau. Il y a beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup de passages. Beaucoup de personnes qui viennent apporter de la nourriture. Puis bah, plein de choses nécessaires, du matériel pour construire. Voilà. Puis... C'est assez impressionnant, toute l'énergie. Enfin, c'est vraiment... Ça donne la pêche. Et ça donne de l'espoir, parce que du coup, il y a plein de gens, et je pense qu'il y a des gens qui ne se connaissaient pas vraiment avant, bah, comme je pense sur la plupart des ZAD, qui essayent de trouver ensemble, de construire depuis le début, une organisation autogérée, en essayant d'éviter des dynamiques de domination, de pouvoir... Voilà, et qui se pose au-delà de l'occupation du lieu et de la lutte contre cette entreprise, qui se pose des questions de fond sur comment on s'organise ensemble de la meilleure façon et comment prendre soin les uns une des autres. Et c'est vraiment beau.
Ok. Et du coup, est-ce que tu sais comment elle est vécue, l'occupation, par les habitants et habitantes autour? Et puis, est-ce que aussi tu sais comment ça se passe avec du coup l'entreprise?
Bah, du coup, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, il y a une association des habitants, habitantes du coin qui se bat depuis des années, en fait, pour protéger déjà cette colline. C'est une association officielle qui passe par des moyens légaux. Et en fait, il y a déjà eu un recours pour stopper, en fait, l'extension de cette carrière qui a été faite à l'échelle cantonale, qui a été rejetée. Et du coup, il y a un second recours qui a été lancé à l'échelle fédérale. Et ça, on aura la réponse l'année prochaine, je ne sais pas quand. Mais bon, voilà, du coup, en attendant, il y a cette pression mise par les zadistes. Et du coup, en fait, il y a quand même un énorme soutien, enfin, de ce que j'ai pu savoir, de la part de la plupart des habitants, qui sont vraiment contents qu'en fait, il y ait des gens qui s'intéressent à cette colline. Et voilà, après... Évidemment, il y a aussi d'autres avis. Il y a des gens qui sont pas contents pour plein de raisons, parce que c'est des jeunes, parce que c'est des jeunes qui occupent, parce que voilà, l'égalité, etc., etc. Mais de façon globale, j'ai l'impression que l'opinion extérieure, elle est super positive.
Ok. Si jamais on a envie de les rencontrer ou d'aller les voir, de leur apporter du soutien ou quoi que ce soit, comment est-ce qu'on peut les contacter? Est-ce qu'ils ont un site?
Alors oui, du coup, ils ont un site. D'ailleurs, en fait, j'avais pas précisé, mais c'est dans le nom du site. En fait, leur village, là-bas, ils ont appelé... Enfin, le village principal, c'est le village des orchidées, parce qu'en fait, il y a énormément d'orchidées sauvages sur cette colline. Et donc, leur site, c'est orchidées, donc orchidees.noblogs.org, donc noblogs.org. Voilà, si vous tapez en réalité ZAD de la colline sur internet, vous tombez direct sur le blog. Et puis alors pour venir, bon, ils sont super contents, ils et elles sont super contentes que des gens viennent. Par contre, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a plein de mesures qui ont été prises, et je crois que du coup, ils et elles privilégient quand même des gens qui resteraient un peu plus que juste passer comme ça et repartir. Et c'est pas que d'un point de vue du corona, c'est aussi d'un point de vue des énergies, parce que en fait ça brasse vraiment, il y a énormément de gens qui passent, surtout le week-end. Et c'est à la fois super et à la fois épuisant dans des termes de genre, il faut accueillir tout le monde, il faut que tout le monde soit bien, il faut s'organiser, la bouffe, tout ça. Du coup, je crois que Yael, là, avait, aux dernières nouvelles, encore une fois, c'était pas les plus récentes, plutôt envie de privilégier des personnes qui resteraient un peu plus. Okay. Plus que deux jours par exemple, voilà.
D'accord. Bon bah super. Et du coup pour le mot de la fin, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le code postal de ce lieu?
Alors le code postal de la commune des Clépans, c'est 1312.
Voilà. Merci.
Joli. Merci code postal. Et le Canu Info finit en techno. Pour l'agenda. Alors, ça sera samedi, et samedi c'est demain, et ce sera à 14h dans les pentes de la Croix-Rousse, à la Plume Noire. Il y aura une collecte solidaire, la librairie autogérée met à disposition son local pour des collectes de denrées. Ça fait un moment que ça dure et ça continue donc demain à 14h, denrées alimentaires et de produits de première nécessité, deux fois par semaine, donc demain.
Et donc demain après-midi, on ne sait pas encore s'il y aura une manif contre la loi globale. A priori, elle n'est pas appelée. De là à dire qu'elle a été interdite par la préf, je ne sais pas. En tout cas, à Paris, elle a été interdite. Mais pour vous consoler, vous pourrez toujours aller acheter votre calendrier black screen à La Lutine. La Lutine, c'est 91 rue Montesquieu.
Et c'est un très beau calendrier. Si vous nous avez écouté il y a deux semaines, on avait notamment une représentante de ces personnes qui tirent, puisque c'est en sérigraphie que sont faits ces calendriers. Le mois de juin sera donc le mois de nuit, je crois. On tire à l'envers.
C'est ça, ouais.
Et il y aura un rassemblement demain contre les violences de l'extrême droite à 14h, puisque le rassemblement aura lieu à 14h sur l'esplanade de la montée de la Grande Côte, donc tout en haut des marches, puisque samedi dernier, deux bénévoles de l'association, justement celle dont on parlait, qui s'occupe de récupérer des collectes alimentaires, ont été agressés par un commando d'extrême droite qui les a donc lâchement agressés alors qu'ils n'étaient plus que deux à la plume noire. Rassemblement contre l'extrême droite demain à 14h, esplanade de la montée de la Grande Côte. Et puis la dernière info de l'agenda qu'on voulait vous donner, c'était celle qui est à trait à Radio Canu, puisque On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine qui a lieu sur les ondes rebelles de Radio Canu le vendredi soir à 18h, eh bien, fera sa dernière le 25 décembre 2020 pour ses 12 ans. Ils nous ont écrit un petit texte qu'on va vous lire.
Et oui, parce que la semaine prochaine, pas de Canu Info, mais 2 heures de On n'est pas des cadeaux. Pourquoi ? Parce que le 25 décembre 2020, On n'est pas des cadeaux organise sa soirée de départ. Quoi de plus somptueux que de tirer sa révérence à 25 décembre pour des dépravés de Noël, pour toutes les TPG non invitées à cette fête des familles. On n'est pas des cadeaux se barre le jour de la naissance du petit Jésus, de Jingle Bells et du foie gras. Notre au revoir, lui, sera bruyant et plutôt dissonant, païen avec amour, sans bûche mais avec des bouches, avec de la bière et des chips. Plein de grosses boules, mais pas sur le sapin. De mauvais genre avec classe, du mauvais goût, mais avec de la salive. Par nos chaleurs entremêlées, avec de l'air entre les ondes, des micros pleins de rêves et d'horizons, entre TPG, avec de l'électricité comme paillettes.
On a envie de transmettre l'histoire de ces 12 ans de radio, et aussi de jouer, de rigoler, de s'alléger à cause de toute la merde qui nous entoure. On a envie de vous entendre, qu'on partage nos cynismes et nos émotions. Pour cela, on va mettre en place une libre antenne sans doc et difool, mais la volonté de laisser la parole à toi, auditeur, auditrice, de toujours ou d'une heure comme ça. Alors il faudra appeler au 04 78 39 18 15. Quelqu'un d'ailleurs ou quelqu'une vient d'appeler. On est désolé, on était à l'antenne, on n'a pas réussi à décrocher. Tu pourras même participer à des quiz pour gagner des t-shirts. On n'est pas des cadeaux.
Et avant le 25 décembre, n'hésite pas à nous envoyer une pastille sonore ou un son enregistré à l'arrache pour nous partager ce qui t'habite, ce qui te fait plaisir, faire un petit coucou ou nous dire tout fort ce que tu n'as jamais osé nous dire tout bas. Et si tu ne t'y connais pas en montage audio, compose ce numéro de fixe pour laisser un message sur le répondeur de Radio Canu. Vous vous rappelez le répondeur de Radio Canu, qu'est-ce que c'était bien. Il y avait une personne qui faisait des blagues, enfin bon bref. 04 78 29 26 00, en commençant par « Bonjour, on n'est pas des cadeaux ». Et si ça répond, tu peux toujours rappeler juste derrière pour laisser un message. Si t'es pas très vocal, tu peux aussi nous écrire via notre mail, on lira ton message.
On a envie de se dire au revoir à plein, être nombreux et nombreux, avec le confinement et le couvre-feu, c'est compliqué de se retrouver physiquement dans les studios. On va se faire une belle teuf sur les ondes, on va s'ambiancer sur la fréquence du 102.2 ou sur le stream de radiocanu.org si vous êtes ailleurs en France ou ailleurs dans le monde d'ailleurs. Et on va s'enjailler pour que les vibrations se transmettent à travers les transistors. Le 25 décembre, ouvre ta radio sur le 102.2 à 18h jusqu'à pas d'heure, au moins jusqu'à 21h, ça sera sans doute plus. Et appelle-nous, Noël ne doit pas nous laisser dans le silence et l'isolement. On n'est pas des cadeaux, ne peut pas partir sans un grand grondement d'orage. Et pour ça, on a besoin de toi. Ils ont et elles ont besoin de vous. Voilà, dans un instant, c'est Noise Pollution. Nous, on a fini, on n'a même pas prévu de petit ACAB soir.
On pourrait se dire que peut-être la personne qui appelle, c'est peut-être bien Noise Pollution.
Je sais pas, il y a quelqu'un qui insiste, mais on ne peut pas répondre.
Ouais. On est à l'antenne, enfin, c'est quand même compliqué, voilà. Quoi, on ne peut pas tout faire à la fois. Mais on n'a qu'à se dire que ce soir et tous les soirs, ACAB, ça veut dire All Cops Are Bastards. Rappelez-vous, tous les flics sont des bâtards.
Ça, c'est bien, c'est facile, ça marche. Du coup, on vous souhaite une bonne fin d'année. Nous, on revient les Canu Info du vendredi en 2021. Pourquoi tu rigoles? Et puis, on laisse maintenant la petite émission, la grande émission, c'est 2 heures quand même, de musette pour vous. C'est tout de suite. Bisous, bisous. Ciao, ciao.